France Musique.
Pays des orgues. Bonjour à tous, septième et avant-dernière étape de notre randonnée musicale estivale dans le Pays des orgues. Nous étions la semaine dernière à Saint-Ursanne, dans le Jura suisse, et nous sommes toujours dans ce beau canton où l'on parle français, mais cette fois-ci à Porrentruy. Le nom de cette ville résonne, comme Payerne, comme un lieu mythique pour les organistes depuis que le facteur allemand Jürgen Arendt a construit dans l'ancienne chapelle du lycée des Jésuites, aujourd'hui lycée cantonal, un orgue Bach Gottfried Silbermann de 1730, dont le buffet est l'exacte copie du buffet de Glauchau en Thuringe. Cette magnifique chapelle, rénovée entièrement en 1984, a vu de nombreux concerts avec les grands oratorios de Bach, cantates, motets, messies de Handel, cycle des symphonies de Beethoven sur instruments historiques ou l'enregistrement par Michael Radulescu de l'œuvre d'orgue de Bach. Ici se sont tenues pendant une vingtaine d'années de nombreuses académies sous la houlette de Michael Radulescu. En voici un brillant aperçu.
Müssen dessen Ruhm erfüllen.
Johann Sebastian Bach, air de soprano Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51, par Gunhild Alsvik, soprano, l'ensemble et le chœur de l'Académie Michael Radulescu, et Michael Radulescu à la direction, un enregistrement qui date du 26 juillet 2014. Avec nous Paul Flückiger, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été pendant 40 ans professeur de lettres classiques dans ce lycée à Port-en-Truy. Vous êtes aussi organiste et vous avez suivi, évidemment, depuis le début, l'histoire de la restauration, de l'installation de cet instrument dans l'Aula, la salle des fêtes, si on veut, de ce lycée. Comment cet orgue est-il arrivé dans ce lieu ?
L'introduction que vous faites est tout à fait juste. J'étais, après cette restauration, tout à fait étonné que sur cette belle tribune, telle qu'elle est visible maintenant, elle était vide, elle était restée vide. Et il fallait naturellement, avec tous les ornements baroques qui venaient d'être refaits, il fallait un instrument. Naturellement, l'idée a germé. Je crois qu'il m'a fallu, si je me souviens bien, 2 ans pour que, véritablement, je prenne des contacts. Alors, le meilleur ou rien. Voilà la réflexion. Alors, pour choisir le meilleur, il fallait aller chez quelques organistes célèbres de ce temps-là. C'était Édouard Müller, organiste de la cathédrale de Bâle. Mais il y avait aussi Jean-Jacques Nau, ici à côté, qui était encore chez les frères là-bas, à Thésée. Il y avait Guy Beauvais, il y avait... quelques personnalité de ce genre, qui me disait c'est vraiment, pour l'instant, c'est Arend qui passe pour être celui qui est le meilleur.
Qui a été, Paul Flückiger, force de proposition pour proposer un instrument d'une esthétique assez peu représentée dans la région, vous en conviendrez, à savoir un instrument thuringien, presque une réplique d'un instrument du temps de Bach?
Alors écoutez, c'est tout simple. Avec Arend, on ne discute pas. Eh bien, c'est arrivé comme ça. Quand Arend est arrivé ici, pour la première visite, il s'est mis pendant 2 heures sur la tribune, sans parler, assis sur une chaise, au mieux. 2-3 fois, tapé à la main. Et puis, résultat, on peut... Wir können etwas machen hier. Bon.
On peut faire quelque chose ici.
Voilà.
Accessoirement, Paul Flückiger, il y avait... comme vous le dites, un argument politique au choix de cet orgue.
Oui, effectivement. C'était la période, un peu chauffée d'ailleurs, où la Suisse était appelée à voter la création, à confirmer la création du canton du Jura. Et je me suis dit, un gros projet politique comme ça pour un pays doit être souligné par un projet culturel. Et j'ai fait état de ça, je suis allé voir 2 conseillers fédéraux et nous avons mis en place une façon de trouver par l'Office fédéral de la culture de l'argent par une campagne financière dans les communes, etc., etc. Et à la fin, il y a eu trop d'argent. Et Arend me téléphone. Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute de plus ? On fait un jeu de plus. Peu importe si c'est pas tout à fait, si c'est plus que la copie. Alors j'ai dit, ah ben, tu mets la trompette. Parce qu'il n'y a pas de trompette dans les orgues de Gottfried. Voilà. Bon.
Thank you. Anthony van Noort, psaume 24, par Gabriel Wolfer, à l'orgue Arendt de Port-en-Truy. Bonjour Gabriel Wolfer.
Bonjour Benjamin.
Éclairez-nous un tout petit peu sur l'histoire de ce lieu où nous sommes aujourd'hui, Port-en-Truy, cette magnifique église des Jésuites, et tout ce qui a pu se passer d'important là.
Alors c'est long à raconter, mais pour être bref, à la Réforme, donc on était ici dans la principauté de Bâle. C'était donc un prince-évêque qui avait un territoire pour la principauté, un territoire pour l'évêché, et il y avait une partie commune. Mais ici, on n'était que dans la principauté. Et lorsque la Réforme est arrivée à Bâle, le prince-évêque avait fait ici une résidence secondaire qui est devenue sa résidence principale, pour les raisons évidentes de pays catholique. Et on lui a donné comme mission de bâtir un collège de jésuites, qui était un collège avec un rayonnement très important. La preuve, c'est que les autorités de Port-en-Truy demandent au prince-évêque si on ne pourrait quand même pas avoir quelques élèves de la ville dans le collège. Alors on fait venir des élèves de partout. Et donc ce collège des jésuites est très florissant, rayonnant, jusqu'à la Révolution. Et ici, on connaît quand même dans ce coin de la Suisse, qui n'était pas en Suisse d'ailleurs, on connaît une assez forte version de la Révolution.
Vous étiez donc département français.
Alors, après la Révolution, oui, on a chassé le prince-évêque, et puis c'est devenu un département français. D'abord le département du Mont-Terrible, qui est le nom de la montagne avoisinante, et puis peu de temps après, rattaché au Haut-Rhin. Jusqu'en 1815, et en 1815, la grande catastrophe.
On vous a perdu.
Voilà, donc congrès de Vienne, et puis le canton de Berne perd une partie du canton de Vaud, une partie très importante, avec des vignes au bord du lac. Et en compensation, on donne au canton de Berne cette ancienne région du prince-évêque de Bâle. Et les Bernois s'en plaignent d'ailleurs parce qu'ils disent qu'ils perdent une cave à vigne contre un Galta. voilà, et ça se passe pas bien dès le départ puisque on est dans une région francophone et catholique et on nous rattache à une région alémanique et protestante. Donc il y a une lutte célèbre d'ailleurs qui n'est pas terminé, puisque l'année prochaine, il y a une petite ville de 7000 habitants qui doit décider de quitter le canton de Berne à son tour. Donc c'est une lutte qui dure depuis 1815.
Gabriel Wolfer, il y a eu ici, pendant une vingtaine d'années, des masterclass, des stages importants, l'été, pour des musiciens du monde entier, on peut presque dire, avec Mihail Radulescu, quelqu'un que vous avez bien connu.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai suivi l'entier des académies qui ont duré à peu près 25 ans et qui ont reçu jusqu'à plus de 500... Enfin oui, il y a plus de 500 organismes du monde entier qui sont venus ici. Et le vœu de Mihail Radulescu, c'était de pouvoir non pas seulement jouer la musique d'orgue, mais la pratiquer avec sa voix. Donc, son exigence pour venir ici... qui a été très bien prise, c'était oui, mais le soir, on fait chanter les organistes et on va préparer deux cantates par académie. Et ensuite, plus tard, les académies de cantates et d'orgue ont été séparées parce qu'il y a eu un réel engouement aussi pour la partie musique sacrée vocale. Donc, ça a abouti à une deuxième académie. Et là, on a fait venir beaucoup de solistes, de chanteurs, notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de France. On a énormément de contacts en France suite à ces académies bars, des gens adorables qui, quand il nous manquait du monde, me disaient « Ah, mais je connais quelqu'un de très bien qui est dans l'esprit du lieu » et on a fait des rencontres vraiment magnifiques et de haut niveau.
Thank you. Johann Sebastian Bach, Chœur O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe, BWV 34, par le chœur et l'ensemble de l'Académie Michael Radulescu, et Michael Radulescu à la direction, un enregistrement du 26 juillet 2014. Voici deux semaines, nous étions en compagnie de Jean-Charles Blitzer, votre ancien professeur, Samuel Wolfer, au Temple Saint-Jean de Belfort, endroit tout à fait idiomatique pour le répertoire d'Allemagne du Nord. Mais nous allons voir que le Thuringien qu'était Bach a pu faire résonner à son tour, à son retour de voyage de Lübeck, peut-être les grands chorales des maîtres du Nord, et peut-être, pourquoi pas, jouer Matthias Weckmann, Reinken, Bruns et quelques autres à Arnstadt, ce qui a dû résonner bizarrement aux oreilles des paroissiens d'Arnstadt. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors oui, évidemment. Et puis en même temps, bien sûr, l'orgue arène d'un orgue de Saxe n'a pas forcément les couleurs de l'orgue nordique. Et puis en même temps, il y a une qualité de timbre, il y a le jeu de sesquialtera, il y a des mélanges qui rappellent quand même le Nord aussi. Et bon, notamment dans les chorales, peut-être c'est moins le cas dans les grands préludes de fugue, mais dans les chorales, je pense qu'on peut trouver des mélanges qui servent très bien cette musique.
Matthias Weckmann, Ach mir armen Sünder, par Gabriel Wolfer, à l'orgue de Port-en-Truy. Bonjour Georges Guillard. Vous êtes organiste, vous avez été longtemps titulaire de l'orgue Kern des Blancs-Manteaux à Paris, vous avez enseigné la musicologie à la Sorbonne et vous êtes cofondateur de la revue Orgue Nouvelle. Alors Georges Guillard, expliquez-nous l'engouement, la passion absolue qu'avaient certains organistes français dans les années 70, 80, 90 pour le facteur d'orgue Jürgen Arendt, qui est le facteur qui a construit l'église des Jésuites de Port-en-Truy. Dans le Jura suisse.
Cela s'est passé de la manière suivante. Je passais le concours d'orgue de Bruges en 1970 avec Odile Bayeux et à l'issue de ce concours, Michel Chapuis nous a entrepris en nous disant « Mais vous savez, il faut absolument que vous connaissiez le meilleur facteur au monde actuellement. Allez le voir. Allez d'abord voir Gustav Leonhardt et ensuite allez voir Arendt. » De rechef avec Odile, nous allons à Amsterdam. Nous obtenons la permission de jouer l'orgue de la Walserkerk, c'est-à-dire l'orgue de Gustav Leonhardt. Et là, nous avons passé une après-midi absolument merveilleuse. Cela nous a conforté dans l'idée qu'il s'agissait vraiment d'un facteur hors norme. En tout cas, en France, nous n'avions jamais entendu ça. Et pour l'anecdote, je vous dirais que j'ai entendu un jeu de tertiane qui, un demi-siècle après, me reste encore dans l'oreille. Pour sa qualité de couleur, de velouté, son charme, qui était absolument extraordinaire dans l'énoncé d'un récit, d'un choral orné, par exemple, de Jean-Sébastien Bach. Autrement dit, après, c'est nous qui sommes devenus les prophètes d'Arendt en France, et après ça s'est répandu comme une traînée de poudre.
Le pays des orgues, Benjamin François, c'est l'été sur France Musique.
Sur cet orgue Arendt, Gabriel Wolfer, on a beaucoup joué la musique de Johann Sebastian Bach. Michael Radulescu a enregistré une intégrale sur cet orgue. Et vous avez choisi de nous jouer une sonate en trio, la sixième. Pourquoi la sixième ?
Pour une question de tonalité, je trouvais qu'elle allait bien dans le programme. Premièrement, ensuite, parce que je l'avais un peu plus dans les doigts que les autres.
Et, c'est une bonne raison.
Oui, voilà. Et je trouve que cette alternance, comme dans à la Corelli, Concerto Grosso, avec ses parties solistiques et en tutti, le toucher ici est tellement sensible, parfois on a l'impression de jouer du clavicorde, que je trouve que ça restitue bien cette dualité entre les parties soli et les parties tutti. Et l'orgue est tellement orchestral que voilà.
Thank you. Johann Sebastian Bach, sonate en trio numéro 6, BWV 530, Vivace Lento Allegro, par Gabriel Wolfer, à l'orgue Jürgen Arendt de Porrentruy. Et vous terminez votre programme avec le prélude et fugue en la mineur. Belle ampleur et quelque chose d'assez jovial pour terminer, j'ai envie de dire.
Oui, et on est de nouveau là, dans le bar du Nord, un petit peu quand même, avec cet enchaînement de la fugue directement, comme chez Buxtehude. Et puis, c'est très propre au Stilus Fantasticus dans la fin de la fugue et puis dans la fin du prélude aussi. Et la fugue, avec ce rythme ternaire, est incroyable. Elle a un côté très dansant, mais je trouve qu'elle est aussi très mélancolique. Et elle se finit vraiment sur une sorte de cataclysme. Donc oui et non, pour le côté joyeux, c'est une danse un peu mélancolique, je trouve.
Ouais. Enfin, il y a un cataclysme harmonique.
Ouais, il met pas de dièse. Hein. Le dernier accord, c'est ouais. C'est la mineure, quoi. C'est... Ouais. Heureusement que c'est pas la dernière émission.
Non, ça peut être un peu glaçant. Ouais. Johann Sebastian Bach, Prélude et fugue en la mineur, BWV 543, par Gabriel Wolfer, à l'orgue Arendt de Porrentruy. Fin de notre septième étape au pays des orgues, avec le mythique orgue Arendt de l'ancienne église des Jésuites de Porrentruy, dans le Jura suisse. Je remercie Catherine et Gabriel Wolfer pour leur accueil, Paul Flückiger et toute la vaillante équipe de l'émission, à la prise de son Michel Gassic et Valentin Hazan-Tzielenski, Thaïssa Froidure, attachée de production, et Jean-Claude Mullet à la réalisation. La semaine prochaine, pour l'ultime étape de notre voyage au pays des orgues, nous nous rendrons dans le canton de Berne pour écouter Antonio Garcia sur les deux orgues de l'ancienne abbaye des Prémontrés de Bellé. Et puis n'oubliez pas la page de l'émission sur laquelle vous trouverez la carte interactive de notre périple, des photos, liens et ressources documentaires, et aussi la réécoute et le podcast, tout cela sur francemusique.fr. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.